Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas. Et oui, il est midi et des poussières, 15 poussières exactement. Et c'est l'heure de cette nouvelle émission. Salut Léo.
Salut Raphaël, joyeuse première émission.
Merci beaucoup et merci surtout d'assurer la technique pour ce premier direct. Alors cette nouvelle émission, elle s'inscrit dans la nouvelle grille de programmation de la radio qui démarre aujourd'hui, lundi 24 novembre, pour l'année 2025-2026. Il y a plusieurs nouveaux rendez-vous, des choses qui continuent, des choses qui évoluent, d'autres qui s'arrêtent. On vous en dira plus dans les annonces tout à l'heure à 13h30. Mais moi, je commence dès maintenant avec donc ce nouveau rendez-vous midi et des poussières. Ce sera tous les lundis, mardis et mercredis, juste après les infos de RFI de la mi-journée. Et ce sera en rediffusion le soir à 21h. Et pendant une heure environ, je vous propose un temps d'antenne en direct avec plusieurs moments, des invités, des reportages, des interviews pour raconter ce qui se passe localement ou un peu plus loin. Une revue de presse très sélective, des chroniques sur des sujets divers et variés, des rendez-vous, de la musique et même, pourquoi pas, l'horoscope et la météo. On a le droit d'être un peu classique, nous aussi, mais il règnera quand même, ne vous inquiétez pas, un certain bordel. Ce sera jamais exactement la même chose. Il y aura sûrement quelques bugs et quelques flottements, des poussières dans la machine, n'est-ce pas ? On émet quand même sous le haut patronage des Barthas et un buisson, ce n'est pas lisse. Il est midi et quart, bienvenue dans Midi et des poussières.
Midi et des poussières sur Radio Barthas.
Et pour commencer cette toute première émission, une info qui n'a d'importance que celle qu'on lui donne. Le 24 novembre, c'est la fête des Flores et de toutes les variantes de ce prénom. Flora, Floraline, Florali. Et je dois avouer que j'ai pris cette info comme un signe. Je viens d'arriver à Florac. Je commence cette nouvelle émission en direct depuis Florac. Et c'est la Sainte Flora. Les planètes et les poussières interstellaires semblent bien alignées. Et je ne sais pas si vous connaissez le proverbe « à Sainte Flora, plus rien ne fleurira ». Là encore, ça tombe très bien, car je ne vais pas vous parler de fleurs, mais de champignons. Ce sera le sujet du reportage du jour. Et c'est Sophie Lemonnier et Émeric Sulmont qui en parlent. Ils ont proposé début novembre une balade découverte des champignons qui poussent le long du sentier du Béal des Abris sur la commune de Saint-Martin-de-Lensuscle. Alors Émeric, il est naturaliste, vous l'entendez souvent dans l'émission Palabre en forêt, il travaille au Parc National des Cévennes. Et Sophie, elle est ethnobotaniste et ethnomycologue. Elle s'intéresse aux liens entre les humains, les plantes et les champignons. Et cette sortie, elle a été proposée dans le cadre du schéma départemental des espaces naturels sensibles et du plan d'action de l'Atlas de la biodiversité communale de Saint-Martin-de-Lensuscle. Je suis allée y promener les micros de Radio Barthas et je vous propose donc une immersion dans la forêt, pleine d'érudition, d'olfaction et de sensibilité. Et c'est Émeric Sulmont qui nous accueille.
Alors, on est sur la commune de Saint-Martin-de-Lensuscle, tout à fait paumée au beau milieu de Cévennes, entre Chênevert et Châtaignier. Et l'objet de l'après-midi, c'est d'aller faire un petit tour sur un sentier et de récolter tout ce qui pousse au niveau des champignons. Et de ces récoltes, on va essayer de chercher à nommer ces champignons, puis voir s'il y a des propriétés ou voir si on peut les manger. Mais ça, c'est pas forcément un but. Donc c'est pas de la mycophagie, on appelle ça plutôt la mycologie. Donc c'est un peu plus noble, si on peut dire. Et on a tout un paquet de bouquins. On n'est pas vraiment experts, Sophie et moi, mais quand même, on connaît un peu. Et on va essayer de transmettre nos connaissances, partager nos connaissances sur les champignons.
Une balade pédagogique, mycopédagogique.
C'est ça, exactement.
Et donc, ça va être quoi, le parcours ?
Alors, le parcours, c'est Sophie qui l'a concocté. Alors, c'est le Béal des Abris. Les Abris, c'est un petit hameau qui est un peu plus loin d'ici, où on va aller ensemble. On va faire deux heures et demie de balade. Voilà.
J'ai vu une girole en début de semaine. Donc peut-être qu'elle aura fait des petits... Je l'ai laissée, hein. J'ai essayé de repérer à peu près où elle était, mais bon.
Je m'appelle Sophie Lemonnier et je m'intéresse aux champignons depuis quelques temps. Depuis que j'ai faisais des enquêtes ethnobotaniques, donc je m'intéressais aux cueillettes des plantes sauvages. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens de par ici, ils parlaient d'abord de champignons avant de parler de plantes. Donc j'ai regardé de plus près. Et voilà, et depuis ça me passionne.
T'es tombée dedans.
Je suis tombée dedans, c'est vraiment ça.
Et c'est quoi qui te passionne à propos des champignons ?
C'est beaucoup de choses. D'abord, la première chose qui m'a passionnée, c'est le regard des gens, très diversifié selon les endroits, selon d'où viennent les gens, et de voir tout ce qui se cache dans le vécu des gens par rapport aux champignons.
Tout le monde a une histoire avec les champignons.
Tout le monde a une histoire avec des histoires familiales, des histoires personnelles, des anecdotes plus ou moins rigolotes ou dramatiques d'ailleurs. Mais voilà, ça ne laisse pas indifférent, c'est sûr. Puis par ailleurs, je m'intéresse beaucoup à l'écologie, les plantes, les champignons dans la nature. Et moi, j'avais fait des études d'écologie et à l'époque... On abordait les champignons de manière un petit peu marginale et on se rend compte aujourd'hui de l'incroyable présence cachée et l'importance dans les fonctionnements. Donc il y a ça aussi, puis il y a la beauté, puis j'aime bien en manger, enfin voilà.
On va y aller ?
Moi j'ai trois places.
Et on va se regrouper dans les voitures parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas facile de se garer dans vos petites ruelles, dans vos petites routes. Normalement, avec trois voitures, ça devrait le faire si on est 15.
Mais vas-y, à 60 à l'heure.
C'est qui devant ?
Je sais pas.
C'est la... Ah non, mais c'est peut-être pas
elle.
C'est
Sophie ?
Non, elle était en Kangoo.
Laisse-les passer peut-être.
Qui ça ? Laisse-les passer, il n'y a personne.
Là, ce qu'on va faire, ce petit sentier, je crois qu'il fait 4 km. Il est assez vite parcouru. Il nous permet de traverser des milieux assez diversifiés. Évidemment, la châtaigneraie, des coins de pente où il y a beaucoup de chênes verts. Et puis, le bord de rivière, puisque c'est le sentier du Béal des Abris. Et puis, on passe aussi au niveau de belles prairies de bord de rivière. Donc, en traversant tous ces milieux différents, on va ouvrir l'œil en particulier sur tout ce qu'on peut trouver comme champignons. Un peu lichen, mais peut-être pas trop, parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout. Là, vous avez un grand spécialiste lichen mousse avec Emeric. Donc, n'hésitez pas, si vous trouvez des trucs, si le groupe est un peu plus loin, vous prélevez. Ce qui est important, juste... c'est d'essayer de bien repérer à quel endroit on l'a trouvé, au niveau de quels arbres, ou sur un arbre, ou dans l'herbe. Il faut vraiment repérer tout ça, parce que ça va faire partie de la compréhension et de la reconnaissance.
Donc là, on marche sur un chemin sous les châtaigniers, et il y a une première trouvaille de champignons.
Ah oui, c'est un petit lactaire,
je pense. Là ? Il a du lait blanc. Et les lactaires, ils ont une particularité qu'ils ont en commun avec les russules. Vous connaissez des russules qui se mangent, non ? La charbonnière, la belette. C'est les seuls groupes de champignons dont le pied se casse comme de la craie ou comme du sucre, net, enfin avec des petits... Parce que le pied n'est pas... C'est pas des longues fibres, comme ça. Donc là, c'est un petit lactaire à lait blanc. Donc déjà, là, on est bien avancé dans la détermination. On n'a plus qu'à chercher l'espèce dans les bouquins. Alors, les lactaires et les russules, on peut goûter un peu. C'est un des critères. Et là, je peux vous dire, il est amer. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas le manger. Mais c'est un des critères.
Ça, si on adore les pamplemousses.
Donc, on pourra, si on en trouve des qui sentent des choses particulières, on pourra se faire un petit quiz en arrivant, un petit quiz odeur avec.
Ah ouais, avec un foulard sur les yeux.
Ouais.
Oh, celui-là qui a une odeur. Il est tout pourri. Mais...
Alors, il a une odeur de un qui commence à être.
C'est parce qu'il est faisandé.
Il est faisandé, on va dire. Là, c'est pas l'odeur du champignon que tu sens, c'est l'odeur de sa décomposition. Et moi, c'est ce que ça m'évoque quand je sens des odeurs comme ça. Par exemple, pour ceux qui connaissent le clitopile petite prune qu'on appelle le meunier, qui sent la farine, qui est délicieux. Et alors, dès qu'il tourne, il tourne très vite. Ça sent la charonne, quoi, vraiment. Et ce que ça m'évoque, moi, ces odeurs qui sentent vraiment l'animal en décomposition, c'est que, le saviez-vous, les champignons sont plus proches dans l'évolution du monde vivant, des animaux, que des végétaux. Et ce n'est pas étonnant que les formes de décomposition rappellent plus les odeurs de décomposition animale que végétale.
Emery, oui. Toi, tu es spécialiste des mousses et des lichens, c'est ça?
Je suis botaniste. Et puis quand j'ai eu fait le tour des plantes des Cévennes, je me suis intéressé aux mousses. Et les lichens, je m'y intéresse, mais je suis loin d'être spécialiste. Je m'intéresse surtout aux gros lichens faciles. Et pour une raison assez simple, c'est que dans mon travail, là, je suis garde au parc des Cévennes, garde moniteur. Et on a beaucoup d'interventions en forêt, d'essayer de localiser des forêts plutôt anciennes. Et les champignons, les lichens et les mousses, ce sont trois éléments qui sont très indicateurs de forêts anciennes, certaines espèces en tout cas. Il y a alors des espèces qui sont typiques de très vieux bois morts dans des contextes humides et qu'on retrouve que dans les vieilles forêts, par exemple.
Est-ce que pour les néophytes absolus dont je fais partie, tu peux réexpliquer la différence entre les lichens et les mousses?
Ah oui, alors ça c'est chaud. Les mousses, c'est des êtres chlorophylliens qui ont des minuscules feuilles pour la plupart et qui sont sans vaisseau conducteur, donc ne peuvent pas monter la sève très très haut. Ils n'ont pas moyen de monter de sève en fait, ils n'ont pas de vaisseau conducteur de sève.
C'est pour ça qu'ils restent au ras du sol.
Voilà. Donc les mousses, voilà, en gros c'est vert petit pour faire court, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Là il y en a là.
Voilà, là il y en a plein sur les rochers, sur la terre. Et les lichens, c'est d'abord un champignon qui accueille des algues à l'intérieur de lui. Et il y a un échange de bons procédés, entre guillemets. Le champignon fait habitat, quoi. Il accueille. Et l'algue, elle fournit des sucres au champignon pour qu'il se développe encore plus. Et elle est protégée de la dessiccation par le champignon qui lui fait un petit abri.
Donc le lichen, c'est une symbiose.
C'est une symbiose, c'est une vraie symbiose. Mais quand on nomme un lichen, on nomme en fait le champignon. Et les algues qu'il y a à l'intérieur ne sont pas nommées. C'est des petites espèces minuscules, souvent unicellulaires. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est la honte. Mais non. Il faut ramasser tout. Je profite de que tu parles de comment on coupe un champignon. Il y a beaucoup de débats sur l'impact des chercheurs de champignons sur la forêt. Ils ramassent tout, il n'y a plus rien qui pousse. Quand vous ramassez un champignon, vous vous rendez bien compte en fait que vous ramassez le fruit du champignon. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le carpophore, le champignon. Et le véritable champignon, il est sous terre, il est dans le bois, enfin il est là où il est invisible, quoi. Donc c'est le pommier. Le pommier, si vous voulez, de la pomme, il est là sous terre et on ne le voit pas. Donc quand vous ramassez une pomme, vous avez un impact très très faible en fait sur le champignon. Vous avez un impact nettement moins important que des machines forestières qui vont tasser les sols, qui vont couper le bois. Et donc on peut mettre 1000 chercheurs de champignons dans une forêt, ça fera beaucoup moins de dégâts que 3 tronçonneuses, une abatteuse, etc. Et donc je tenais à dire ça parce que c'est vraiment important. Vraiment le rôle du chercheur de champignons est quand même faible. Il a un impact sur la quiétude de la forêt, sur le dérangement sonore, etc. Mais franchement sur la santé de la forêt, quasi nul, quoi.
Alors je fais de l'ethnobotanique, donc je m'intéresse beaucoup au savoir autour des plantes. C'est une vieille passion. Et donc, en faisant des enquêtes là-dessus, sur les relations entre les cévenoles et les cosnards un peu aussi, et les champignons. Et j'ai eu l'occasion de parler avec Madame Pic. Norbert, il est un peu taiseux. Oui, oui, oui. Mais Evelyne, elle adore.
Ah bah oui.
Elle partage beaucoup. Et elle, elle m'a raconté que pour eux, les champignons, ça avait une certaine importance économique pour faire de la cueillette de rapport. C'est le terme qu'elle a utilisé. Donc, c'est-à-dire des champignons qu'on ramassait en des cèpes, essentiellement, en assez grande quantité pour pouvoir les vendre et en tirer un revenu. Et elle me disait, c'était après les vendanges, on revenait pour être à temps pour la cueillette des cèpes. Ce qui ressort beaucoup, effectivement, pour les cévenoles, c'est ce côté rapport, ce côté économique, ce côté... On a manqué, et ça a eu vraiment, le cèpe en particulier, a vraiment une place hyper importante par rapport à un territoire où il faut faire feu de tout bois, et donc ça rentrait vraiment dans le calendrier... C'est hyper intéressant de voir ça. Et par ailleurs, alors là, ça va un peu plus loin sur ce côté relation entre les humains et les champignons. Les cévenoles, ils ne ramassent pas beaucoup d'espèces, par contre. Et on ne peut pas dire qu'ils soient... Parce qu'il y a des termes qu'on emploie dans les relations entre les humains et les champignons. C'est le terme de mycophile ou mycophobe. Parce que, figurez-vous, il y a des ethnologues qui ont étudié ça, qui se sont rendus compte qu'il y avait des peuples mycophobes, notamment les anglo-saxons. Ouh là là, les champignons, c'est des pourritures. On évite trop d'en manger, sauf les cultiver, ou sauf vraiment... Et les mycophiles, c'est les Russes, par exemple, les Slaves, les Catalans, qui, eux, vraiment, ils connaissent des tas d'espèces de champignons, ils ont tous un nom, et il y a un amour, quoi. Il y a quelque chose, une passion. Et il y a un monsieur qui s'appelle Claude Lévi-Strauss, qui est tout le monde connaît de près ou de loin, mais qui est un anthropologue célèbre et qui s'est intéressé un peu à ses travaux, ses premiers travaux de ce qu'on peut appeler ethnomycologie, voilà, l'étude des relations entre les humains et les champignons. Et il a trouvé ça assez intéressant, ces histoires mycophobes, mycophiles, et pourquoi ça. Et il a écrit un article qu'on peut trouver sur internet. Dis-moi quel champignon tu manges, je te dirai. Et où il dit, alors les cévenoles que j'observe depuis un moment, parce que mes parents ont une maison à Valrogue, en Cévennes, et j'y passe mes vacances depuis 30 ans, les cévenoles, ils sont d'un certain côté mycophiles, avec les cèpes, les girolles et deux, trois espèces, en fait, où il y a une passion immodérée, ils arrêtent tout dès qu'il y a une sortie de champignons dans la forêt. Et de l'autre côté, ils sont plutôt mycophobes pour tout le reste, pour tout ce qui bleuit un peu dans les cèpes. Voilà. Et donc, ils disent, c'est une vraie question, pourquoi mycophiles et mycophobes, et pourquoi certains peuples sont mycophiles et mycophobes. Donc, je ne vous fais pas tout le discours, parce que derrière, il y a plein de raisonnements, d'hypothèses. Mais moi, mon sentiment, c'est vraiment que le côté mycophile, pour certaines espèces, il est très lié à un peuple qui avait vraiment besoin de ce... Pas que un revenu, mais même le côté alimentaire, quoi. Voilà.
Les trompettes de la mort, genre, tu n'auras jamais fait manger les trompettes de la mort.
Absolument.
Midi et des poussières, tous les lundis, mardis et mercredis, en direct à 12h15 et en rediffusion à 21h sur Radio Bartas, 107FM et radiobartas.net. Et nous sommes en direct sur Radio Bartas, m'a rejoint dans le studio Sébastien Kuhn, le directeur de la Jeunette Verte, la salle de spectacle de Florac. Salut Sébastien.
Bonjour.
Alors, c'est plutôt la fin de la saison des champignons, mais c'est la pleine saison de la Jeunette Verte. Avant de revenir sur les temps forts qui s'annoncent, je voulais refaire un petit point sur les fondamentaux, d'autant que je découvre encore beaucoup de choses, moi qui viens d'arriver dans le coin, et je me dis que peut-être certains auditeurs aussi. Alors, je voulais savoir, pour commencer, pourquoi la Jeunette Verte s'appelle la Jeunette Verte?
Très bonne question, à laquelle je ne peux pas répondre complètement. Alors, la jeunette, quand même, c'est un animal qui est issu d'Afrique et qui est présent dans le territoire. Je le définirais comme une espèce de mix entre le chat et le renard, peut-être. Enfin, ça ressemble à une espèce de chat, mais c'est complètement sauvage. Voilà. Et alors, le vert, peut-être lié aux couleurs de la mairie de Florac, puisque c'est une salle qui a été réalisée par la commune de Florac à l'époque.
Ok, mais on n'est pas sûr, donc ça reste encore à...
Ouais, peut-être c'est en fait c'est un animal qui a été ça a été décidé ce nom au petit bac avant un spectacle, on ne sait pas. Voilà, faudrait okay. demander à ceux de l'époque.
À creuser donc. En tout cas, la Jeunette Verte, elle a ouvert en 1997 pour remplacer l'ancienne salle des fêtes de la ville. Donc en presque 30 ans, la Jeunette, elle a pris une place très importante ici à Florac.
Oui, je pense. Dans le département aussi, du coup, elle est réputée comme de la bouche de beaucoup, hein, comme une des meilleures salles de Lozère dans le rapport scène-salle, dans sa taille, dans son équipement.
Et est-ce qu'en 30 ans, ses missions, son rôle, ce qu'elle propose, est-ce que ça a beaucoup évolué ou on est quand même sur quelque chose qui ça ressemble à comment c'était quand ça a été fondé ?
Je pense que non, ça a évolué parce que il y a 30 ans, je la connais pas d'il y a 30 ans précisément, mais je venais en tant que public avant où il y avait aussi beaucoup de concerts à une époque, beaucoup de plus grosses têtes d'affiche, on va dire. Voilà. Après, il y a eu une phase avec un peu plus de la danse est arrivée beaucoup plus, de manière beaucoup plus précise, plus de spectacles, enfin une saison plus pluridisciplinaire avec des spectacles familiaux aussi qui sont arrivés, la notion de spectacle pour les scolaires. J'ai la sensation qu'avant il y en avait moins, mais c'est peut-être juste que j'étais plus loin et que je m'en rendais pas compte. Voilà. Je pense que sa place, elle a toujours été. Une espèce de tête de gondole du sud Lozère, mais avec à pas mal de moments un rayonnement départemental où on peut pas compter que sur la population du sud Lozère pour remplir la salle à chaque fois. Voilà, notamment sur la partie dont je me souviens là des concerts debout qui faisaient souvent le plein. Il y a eu des gros concerts. Je me rappelle des Ogues de Barbac où à l'époque, je crois, quand Pierre André, qui était le directeur de l'époque, avait mis les affiches, il avait mis les affiches en marquant complet dessus parce que au moment où ils avaient affiché, c'était déjà complet.
Et c'est pas toutes les villes de 2000 habitants comme Florac qui ont une telle salle, donc j'imagine que c'est quand même, ça ajoute beaucoup, au même titre que d'avoir des petits commerces, des boulangeries, des commerces comme ça qui restent ouverts. Avoir une telle salle, c'est très important pour une ville de cette taille-là.
Oui, on peut pas, ouais, c'est ça, on peut pas la ramener que à la taille de la ville. Il y a le bassin de vie autour, c'est-à-dire le fait que Florac, ça soit l'endroit. Le bas de la vallée où vers lesquels convergent tous les villages autour, voilà, on reste pas très loin de monde. En fait, clairement, dans le public qui vient à la Jeunette, on a un bon paquet de gens qui viennent du Val d'Aux, de Mende, d'un peu plus loin, de toute la partie du pont de Montvert aussi. Enfin, voilà, ça draine du monde qui peut faire une heure de route pour venir voir un spectacle à la Jeunette.
Et alors, vous n'êtes pas que diffuseur de spectacles, mais vous soutenez aussi la création. Ça, c'est une des missions importantes.
Oui. Oui, ça fait partie un peu du cahier des charges, notamment en lien avec la région Occitanie, enfin avec les différents partenaires. Et pour moi, c'est évident que quand on est une salle de spectacle, c'est-à-dire quand on accueille des spectacles en diffusion, on se doit aussi de mettre un peu de moyens en accompagnement à la création. Donc l'accompagnement à la création, c'est forcément un risque, c'est-à-dire qu'on s'engage avec une compagnie ou plusieurs. Donc là, sur cette saison, on a quatre créations. Voilà. Donc en général, on met de l'argent en coproduction, c'est-à-dire on apporte de l'argent pour que le spectacle se crée et ensuite on s'engage sur le diffuser. Donc du coup, sans avoir vu le spectacle. Donc c'est à la fois une source de stress et aussi une fierté. Enfin voilà, ça fait partie du boulot de salle de diffusion de pas diffuser que des spectacles dont on est sûr qu'ils vont trouver leur public tout de suite à fond. Voilà, s'il n'y a pas de lieux qui font de la création, les compagnies ne créent pas.
Oui, c'est ça. Voilà. Elles ont besoin de vous pour avoir les moyens pour créer des nouvelles choses. Et donc là, il y a trois nouveaux spectacles qui arrivent donc, cette saison. Il y a un spectacle de danse qui s'appelle « Trois poids, trois mesures » de la compagnie Rama de Fabrice Ramalingam, où il y a trois danseurs qui vont observer avec humour et légèreté le phénomène de la gravité sur différents objets. Ce sera le 28 novembre. Et le 9 décembre, il y a un spectacle de magie nouvelle qui s'appelle Évidences inconnues. Alors, c'est quoi la magie nouvelle ?
Alors ça, pour le coup, c'est pas du tout une création, puisque c'est un spectacle que j'ai vu il y a une dizaine d'années. Alors, la magie nouvelle, c'est un mot, enfin, c'est ce qui n'est pas le faire apparaître un lapin dans un chapeau. Voilà, non, on va dire, c'est la même différence entre la magie nouvelle et la magie traditionnelle. C'est un peu pareil sur le cirque, c'est-à-dire les spectacles de cirque maintenant, c'est plus un clown, des animaux et un monsieur loyal. Voilà, ça. Dans l'idée, on va essayer de jouer différemment avec des disciplines du cirque. Donc là, c'est un spectacle qui fait appel à la partie, ce qu'on appelle le mentalisme. Donc comment, par l'illusion, on fait croire qu'on va deviner ce qu'il y a dans la tête des gens, ou alors qu'on va influencer ce qu'ils vont dire. Ça joue sur deux endroits, en fait, sur comment par la relation entre une personne sur scène et quelqu'un dans le public, comment on va faire en sorte qu'ils choisissent ce truc là plutôt qu'un autre.
C'est de la manipulation.
C'est pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire ça, on peut l'extrapoler en se disant que même si on veut pas se faire manipuler, on se fait manipuler. Et donc là, dans le spectacle, évidemment, mais ça veut dire que il y a plein de techniques très fortes pour le réaliser.
Et alors, ce spectacle-là, Évidences inconnues, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Donc, tu l'as vu il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qui s'y passe ?
Alors déjà, c'est y a une esthétique qui est très très belle. C'est-à-dire, il y a un plateau avec plein de machinerie, de petites machineries très simples, un contrebassiste au plateau et Kurt de May, donc qui est le directeur de cette compagnie, qui va jouer avec ses sabliers, qui va essayer de démontrer que peut-être que le hasard n'existe pas, ou en tout cas peut-être qu'on peut, de jouer à comment on peut interférer sur la partie du hasard, comment on peut le contrôler, le manipuler, enfin toujours là-dessus. Je peux pas te dire tout parce que sinon je dévoilerais trop de choses magiques du spectacle, mais en tout cas c'est un peu plus d'une heure de bluff permanent, voilà, jusqu'à une fin collective qui restera gravée dans la tête de tout le public qui va venir. Enfin voilà, c'est vraiment un objet spectaculaire que je conseille.
Et il fait participer le public ?
Oui.
Il faut être prêt à peut-être...
Alors, il découpe personne en morceaux dans une boîte, ça c'est pareil, ça c'est de la magie traditionnelle. Après, il force pas, hein, c'est-à-dire qu'il va inviter des gens à aller, et puis voilà, vous êtes libre de venir ou pas sur scène.
Et c'est aussi pour les enfants ?
Alors, c'est pas spécialement pour les enfants, parce que le spectacle est un petit peu long.
Mais ils peuvent venir.
Ils peuvent venir, c'est conseillé dès 12 ans. C'est-à-dire qu'un spectacle d'une heure 20 en soirée, un mardi soir, j'emmènerai pas mon fils de 6 ans. Mais après, c'est vous qui y voyez.
Et est-ce qu'il explicite un peu après ses tours et tout ça
non.
À la fin ? Non, ok. Moi, j'ai vu un spectacle de magie cet été à Die. Et c'est toujours génial, mais il y a aussi une petite frustration à la fin de rien comprendre et de s'être senti un peu manipulé.
Ouais, c'est pas mal de rester avec ça comme frustration. J'avoue que pour avoir accueilli des compagnies de mentalisme en résidence par le passé, même en connaissant comment ils fonctionnent, ça reste bluffant quoi qu'il arrive. Vraiment, voilà. Il y a la compagnie, notamment Raoul Lambert, j'avais accueilli deux fois une semaine en résidence, donc je voyais comment ils faisaient les choses. Mais une fois qu'on le voit sur scène avec les lumières, l'ambiance, c'est-à-dire qu'il y a tout un récit autour, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on se détourne de chercher le truc, et ben on capte rien à ce qui se passe alors qu'on sait exactement comment c'est fait. Et ça aussi, c'est très très fort.
Oui, c'est agréable de se laisser porter sans toujours devoir mettre du sens derrière les choses. Et alors après les fêtes, le 10 janvier, il y a aussi donc un spectacle qui est programmé. C'est un seul en scène, ça a l'air très très beau, ça s'appelle Justin. Et donc c'est coécrit et interprété par Cyril Cotron. C'est sur la thématique de la sobriété, de l'alcoolisme ordinaire. Donc ce sera parfait en cette période de dry January. Mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Tu reviendras pour nous en parler après les fêtes.
Ouais.
Eh ben merci beaucoup. Sébastien, est-ce que tu as autre chose à nous annoncer ?
Pas d'annonce, mais dire comme on a parlé du bâtiment de la Jeunette, dire que c'est un bâtiment qui vit en dehors de juste notre programmation de spectacle aussi, c'est-à-dire qu'il y a Cineco qui programme toutes les semaines, le mercredi, des films en soirée avec à peu près une fois tous les 15 jours un film aussi en fin d'après-midi. Dire qu'il y a également Ballet Bros qui donne ses cours de danse qui touche plus de 200 personnes par semaine, qu'il y a également du yoga, du qigong, de la gym et également 3 salles pour l'école de musique. Donc voilà, le bâtiment il a aussi son importance par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est bien de pas être tout seul nous utilisateurs sur le spectacle. J'ai oublié la nouvelle dimension aussi qui vient très régulièrement présenter des films. Voilà, de dire qu'il y a un mix de gens, de public qui fréquentent le bâtiment, pas tous pour les mêmes raisons, et que c'est un vrai, c'est un vrai complexe culturel qui a sa place centrale dans la ville et qu'il faut le garder.
Oui, on est ravis qu'il existe. Merci beaucoup, Sébastien. On te retrouvera tout à l'heure après les annonces pour l'Instant Jeunette, où tu reviens un peu plus en détail sur le spectacle qu'on a évoqué, 3 poids, 3 mesures. Et j'en profite pour l'annoncer car on lance la nouvelle grille de programmation aujourd'hui. Les annonces de Bartas seront diffusées à partir de maintenant tous les jours à 13h30 et à 18h30. Et vous pourrez aussi les réécouter en podcast sur radiobartas.net, rubrique annonces.
Je vois l'immense où j'avance.
midi et des poussières sur Radio Bartas.
Midi 48 ou 47, je crois que l'horloge du studio n'est pas tout à fait à l'heure sur Radio Bartas. On écoutait à l'instant le titre « En Léa » de Muddy Monk. Et maintenant, je vous propose le rendez-vous du jour. On n'a pas encore de jingle pour les petites rubriques de cette émission, mais on va essayer d'en faire. Le rendez-vous du jour, donc, c'est la projection à 18h à l'Institut Agro de Florac, donc aujourd'hui lundi 24 novembre, du documentaire « Manger pour vivre » réalisé par Valérie Simonet en 2025. Et le film suit la première ébauche d'une sécurité sociale de l'alimentation à travers le projet de la création d'une caisse alimentaire commune à Montpellier, un film qui questionne comment construire des solidarités alimentaires locales et durables. On en écoute tout de suite un extrait.
Alors, une idée politique qui a émergé ces dernières années, qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation, et en gros qui nous dit on devrait pouvoir, comme on va chez le médecin, sortir une sorte de carte vitale de l'alimentation qui garantirait finalement absolument à chacun et à chacune un budget minimal pour se nourrir dignement et sainement chaque mois.
Je suis convaincue que, en fait, tous ensemble, on peut changer quelque chose dans ce monde qui va mal. Que tout le monde ait à manger à sa faim et de la bonne nourriture et de qualité, surtout. C'est surtout ça.
Manger pour vivre, documentaire de Valérie Simonet, c'est le rendez-vous du jour et c'est à 18h à l'Institut Agro de Florac. Et à l'issue de la projection, La Classe, l'association pour une caisse locale alimentaire Sud-Lozère, viendra présenter la proposition de créer une caisse locale alimentaire sur le même principe que celle qui est en train de se monter à Montpellier, donc en Sud-Lozère. Et si vous ne pouvez pas assister à la projection ou si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, eh bien allez réécouter la dernière émission de Chaud Patate. Elle est en ligne sur le site de Radio Bartas. Midi et des poussières, tous les lundis, mardis et mercredis, en direct à 12h15 et en rediffusion à 21h sur Radio Bartas, 107FM et radiobartas.net. Et maintenant, nouvelle rubrique de cette nouvelle émission. Rien n'est encore complètement calé, hein, c'est la première. Donc c'est une petite revue de presse. Alors aujourd'hui, elle est ultra sélective. Peut-être que dans le futur, j'aurai le temps d'en faire plus. Ou si d'ailleurs, vous avez envie de venir faire une revue de presse, n'hésitez pas. Hein, cette émission a les portes grandes ouvertes. Mais donc, pour aujourd'hui, voilà, alors que l'actualité, elle est souvent source d'angoisse, de détresse, de tristesse, de dépit, aujourd'hui, je vous propose une nouvelle plutôt sympa. C'est à lire, entre autres, sur le site du magazine Science et Avenir. Sachez que le baiser sur la bouche est une pratique qui daterait de 21 millions d'années. Des chercheurs de l'Université britannique d'Oxford ont publié une étude le 19 novembre dernier. Ils ont travaillé sur l'ancienneté du baiser sur la bouche en effectuant une analyse statistique réalisée avec des données sur les espèces de primates qui ont l'habitude de s'embrasser et ils ont établi que le baiser sur la bouche était déjà une pratique des grands singes remontant donc à 21 millions d'années et ces travaux sont présentés comme les tout premiers sur l'histoire évolutive du baiser. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un baiser, se demande le magazine Science et Avenir. Eh bien, l'équipe de chercheurs s'est arrêtée sur une définition. C'est un contact bouche à bouche non agressif qui n'implique pas de transfert de nourriture. Un contact qui d'ailleurs relève un peu de l'énigme évolutive, car toujours d'après les chercheurs cités par Science et Avenir, il semble comporter des risques élevés, tels que la transmission de maladies, sans offrir d'avantages évidents en termes de reproduction ou de survie. Et pourtant, le baiser s'est maintenu au cours de l'évolution et il est toujours présent chez la plupart des grands singes. Les scientifiques ont également établi que les Néandertaliens, qui ont cohabité avec Homo sapiens avant de disparaître 40 000 ans avant notre ère, avaient probablement eux aussi l'habitude de s'embrasser. Et les australopithèques, alors, est-ce qu'ils s'embrassaient déjà ? Je pose la question, car on est le 24 novembre, et c'était un 24 novembre en 1974 qu'une autre équipe de chercheurs découvrait sur le site de Hadar en Éthiopie le squelette fossile d'une jeune australopithèque de sexe féminin. Et au moment d'identifier les os découverts, les chercheurs écoutaient une cassette des Beatles. La jeune australopithèque a donc été prénommée Lucy, en hommage bien sûr à la chanson Lucy in the Sky with Diamonds, qu'on écoute dans sa version instrumentale. Ah. voilà, cette première édition de cette nouvelle émission Midi et des Poussières touche déjà à sa fin. On se quitte peut-être avec un mot de météo. Léo, c'est toi qui t'en charges.
Un mot improvisé de météo. Déjà, j'ai pas de jingle, donc va falloir faire un truc à la bouche de tic tic pff, la météo des Bartas. et j'ai rien préparé du tout, donc on va surtout dire que bah, aujourd'hui il fait froid, restez au chaud et faites gaffe à votre facture d'électricité.
Et écoutez Radio Bartas. Merci beaucoup Léo. Et si vous aussi vous avez envie de venir nous raconter la météo ou autre chose, de proposer un sujet, une chronique, un reportage, des histoires, des anecdotes, eh bien n'hésitez pas à nous écrire pour venir participer à cette nouvelle émission en direct sur le temps du midi sur Radio Bartas. Les portes sont grandes ouvertes. Restez bien à l'écoute sur le 107FM ou sur radiobartas.net. Il y a plein de chouettes programmes qui arrivent cet après-midi. Déjà, on va se retrouver d'ici une grosse demi-heure donc pour les annonces de début de semaine. Ensuite, à 15h, vous pourrez écouter l'émission Micro-Sillon. Donc, Micro-Sillon, c'est l'émission extérieure du groupement d'entraide mutuelle de Toulouse. Voilà, à 20h, vous pourrez écouter l'émission Rock à la Casbah. À 21h, l'émission Midi des Poussières est rediffusée. Et puis, pour le reste, on vous dit à demain.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
Midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.